Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors du lundi au vendredi, il est dans ce studio à mes côtés, c'est le docteur d'Europe 1 bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire, aujourd'hui dans notre grand dossier du jour, on va vous raconter la folle histoire des virus. Ce qu'on vous propose, c'est de découvrir toutes leurs facettes et vous allez voir, il y en a même des bonnes. Par exemple, savez-vous que ce sont des virus qui ont permis à notre espèce humaine de fabriquer un placenta, en gros qui nous ont offert la possibilité quand même de nous reproduire, c'est pas rien. Alors pour en parler, nous serons en ligne avec Tania Louis, elle est docteure en biologie, médiatrice scientifique et l'auteur du livre « La folle histoire des virus » chez Humaine Science. Ensuite, dans notre chronique « Les mots du quotidien », on va s'intéresser aux troubles du sommeil chez l'enfant, alors pas le bébé, mais un peu plus grand, vers 6-7 ans par exemple. Comment expliquer des difficultés récurrentes à s'endormir ou même des insomnies? Comment ça se soigne? Jimmy fera le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de sexualité et de grand âge.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par cette question que nous a laissée Hélène.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors moi j'avais une petite question par rapport au port du masque à partir de 6 ans. Je voulais savoir si c'était vraiment sans danger parce que moi j'ai mon fils de 7 ans qui le porte toute la journée et qui se plaint régulièrement de maux de tête. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci pour votre réponse. Bonne journée.
Alors Jimmy, très concrètement, le port du masque chez les enfants, donc dès 6 ans depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, est-ce qu'il y a un risque pour leur santé?
Absolument aucun, pas plus que pour les adultes. D'une façon générale, les enfants n'auront pas de mal à respirer avec, ils ne vont pas avoir un manque d'oxygène.
C'est vrai, oui, on peut lire tout, un peu tout et n'importe quoi.
Exactement,
sur
ils n'auront
le web,
pas réavaler leur dioxyde de carbone et s'intoxiquer. Et même, il n'y aura pas de risque quant aux troubles des apprentissages. C'était la crainte principale, c'est le fait de ne pas voir le visage des autres pourrait entraîner des difficultés dans l'expression. Or, à 6 ans, l'expression verbale est quasiment normale. On peut se poser la question chez les plus petits, à 3 ou 4 ans. Là, ça peut être problématique de ne pas avoir le visage de la maîtresse. Mais pour un enfant de 6 ans, il n'y a aucun risque. Au contraire, ça va le protéger et protéger les autres.
D'accord. Et Hélène dit que son fils, donc il y a 7 ans, dit-elle, a des maux de tête depuis qu'il porte le masque à l'école. Est-ce que c'est en lien? Enfin, il a peut-être des maux de tête à cause d'autre chose aussi.
Alors déjà, il faut les croire quand les enfants ont mal à la tête. Il n'y a pas forcément de lien de cause à effet. Alors évidemment, si depuis le premier jour du port du masque, il se plaint de maux de tête...
Ça peut le stresser quand même d'avoir apporté ce masque aussi.
Ce n'est pas le masque en tant que tel, c'est la charge mentale que représente ce masque.
Un protocole renforcé de sécurité sanitaire.
L'angoisse en ce moment, voir les parents stressés, s'il y a une situation familiale un peu compliquée. Donc peut-être que c'est l'anxiété qui lui donne ses maux de tête et pas tellement le masque, puisque le masque ne donne pas de migraine.
Donc c'est une bonne mesure selon vous d'avoir imposé donc ce port du masque dès 6 ans?
Oui, c'était une mesure nécessaire. Au pire, elle est peu efficace, mais peu d'effets secondaires. Si jamais on arrive à limiter un petit peu les contaminations avec ça, allez, même 5%, eh bien c'est 5% de gagné dans cette période compliquée. Toute bonne mesure qui permet de limiter l'épidémie est bonne à prendre.
D'accord. Et c'est de façon, on va dire, plus pratique pour les enfants. Comment on choisit justement un bon masque? Vous, je sais que vous avez un fils, je crois, du même âge, de 7 ans, qui doit être masqué, je suppose. Comment vous l'avez équipé?
Eh bien, il faut un masque adapté à son visage pour savoir si le masque.
Parce que nous,
est...
au début, on prenait les mêmes masques que nous, on les donnait aux enfants, mais c'est vraiment clairement trop grand. Donc,
c'est clairement trop grand. Du coup, il y a des fuites sur le côté d'air. Donc, le masque est moins efficace. Et puis, il a tendance à tomber. Et du coup, l'enfant va toutes les 30 secondes le tripoter. Donc, il faut acheter des masques adaptés à la forme du visage, donc des masques enfants qui coûtent plus cher, il faut le reconnaître, donc c'est un budget, mais on peut les laver.
Même les
chirurgicaux enfants. Donc lavez-les, ça permet de faire des économies pour une mesure qui, encore une fois, était nécessaire.
Merci beaucoup, Jimmy, pour cet éclairage de médecin et de papa. Donc, on va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Cathy qui nous l'a posée sur notre répondeur. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'avais une question par rapport aux antibiotiques. Il paraît que ça peut fatiguer quand on est amené à en prendre et je voulais savoir si c'était vrai. Donc je vous remercie de répondre à ma question.
Bon, vous avez bien écouté la question, Jimmy. Ça fatigue ou pas les antibiotiques?
Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent, de croire que les antibiotiques fatiguent. Ils ont beaucoup d'effets secondaires, mais la fatigue n'en fait pas partie. En revanche, si vous prenez des antibiotiques pour une pneumonie, par exemple, eh bien la pneumonie va vous fatiguer.
Donc c'est l'infection, c'est ça.
L'infection en tant que telle que l'antibiotique qui ne donnera pas de fatigue a priori, sauf si vous en prenez peut-être pendant 3 semaines pour une pathologie très particulière.
D'accord. Et vous disiez juste avant, les antibiotiques, comme tout médicament, hein, finalement, peuvent avoir des effets secondaires. Lesquels principalement?
Alors souvent,
du coup
ce qui est décrit, c'est essentiellement des troubles digestifs. Des enfants qui vont avoir mal au ventre avec de la diarrhée,
des
parfois
adultes,
des vomissements.
Même quand on prend
c'est
des antibiotiques au long cours,
chez l'adulte.
Longtemps.
Et on sait qu'en plus, ça va perturber le microbiote, la flore intestinale.
On y revient.
C'est quelque chose de passionnant. Je vous invite à lire le livre du professeur Perlumutter sur le microbiote. Hein. Ça s'appelle « Stress, hypersensibilité, dépression ». Et si la solution venait de nos bactéries, c'est chez Flammarion. Il vous explique que le microbiote a un impact majeur sur l'ensemble du système. La façon dont on va être addict à certaines substances, le stress et puis la prise de poids. Donc voilà, le microbiote, c'est l'avenir. Et souvent, les parents, ils sont réceptifs. Quand j'ai vu un enfant hier qui avait une rhinopharyngite avec un début d'otite, j'ai dit à la maman, écoutez, les antibiotiques, ce n'est pas nécessaire.
Ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique.
Mais je lui ai dit que ça allait bousiller son microbiote. Les bonnes bactéries vont disparaître et peut-être que plus tard, il aura des pathologies à cause de ça. Donc si on peut se l'éviter, eh bien, cet argument marche et les parents sont réceptifs.
Qu'est-ce que vous faites justement pour, quand vous prescrivez des antibiotiques à un enfant, par exemple, pour éviter ces problèmes digestifs? Parfois, on prescrit des levures, de l'ultra-levure.
On peut prescrire de l'ultra-levure, certains
ça
probiotiques, pour essayer de protéger
Et
limiter du coup cet inconfort digestif qui reste fréquent. Mais encore une fois, si on vous donne des antibiotiques, c'est qu'il doit avoir une bonne raison. Donc il faut essayer d'aller au bout du traitement et sinon d'appeler votre médecin pour changer de famille. Certaines familles donnent plus de troubles digestifs que d'autres.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Cathy, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invitée pour le dossier du jour. C'est Tania Louis qui vient nous parler du livre qu'elle publie chez Humaine Science, La folle histoire des virus. Et vous verrez, on va très peu vous parler du coronavirus pour une fois, parce que des virus, il y en a des milliers, voire même des milliards d'autres. Et certains sont même nos alliés. On y vient très vite, donc je vous le conseille. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. Vous êtes en ligne avec nous, Tania Louis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en biologie, médiatrice scientifique, vous animez votre propre chaîne YouTube et vous êtes l'auteur, et c'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui, du livre La folle histoire des virus qui est donc publié chez Humaine Science. Un livre qui tombe à pic parce que je pense que les Français ne se sont jamais intéressés autant d'aussi près à ces petites choses que ces derniers mois. Alors nous, on n'arrête pas d'entendre parler de ce virus, le SARS-CoV-2. Il est loin d'avoir livré tous ses secrets, mais je crois que d'un point de vue général, si on prend les connaissances humaines globales sur les virus, en fait, on ne sait pas grand-chose encore aujourd'hui. Hein.
Oui, en fait, pour le dire exactement, il y a des virus qu'on connaît très bien, mais qui représentent une proportion très réduite de l'ensemble des virus. En gros, le Comité international de taxonomie des virus, qui répertorie un peu tout ce qu'on connaît, on a identifié à peu près 6500 espèces aujourd'hui, alors qu'on estime qu'il y en a plusieurs milliards. Donc il y en a qu'on connaît très bien, mais il y en a plein qu'on ne connaît pas du tout.
Alors on va faire un peu d'histoire pour démarrer. Donc même si on n'a jamais autant parlé de virus, en réalité ils sont bien plus anciens que nous, plus anciens que l'humanité même.
Ah oui, très largement. Alors en pratique, c'est impossible d'avoir une vraie date pour l'apparition des virus. C'est quelque chose qu'on n'a pas les moyens de reconstruire pour l'instant. Mais il y a pas mal d'hypothèses qui disent que les virus sont vraisemblablement aussi anciens que la vie elle-même. Donc la vie elle-même, c'est un peu plus de 3,5 milliards d'années, alors que l'apparition de l'espèce humaine, enfin de la branche qui a donné naissance à l'espèce humaine, c'est 700 millions d'années. C'est 7 millions d'années, pardon. Donc on n'a vraiment rien à voir entre 7 millions et 3,5 milliards. Les virus sont clairement beaucoup plus anciens que nous.
Et Tania, ça veut dire quoi d'ailleurs le mot virus? Ça vient du latin, je crois. Qu'est-ce que ça signifie? Qui c'est qui a donné ce nom?
Alors ça vient du latin qui veut dire poison. Et formellement, personne n'a jamais donné ce nom au virus. C'est un nom qui a été utilisé pas mal au 19e siècle pour désigner toutes les entités microscopiques qui causaient des maladies, globalement. Mais la première fois que le mot virus a été utilisé pour désigner ce que nous, aujourd'hui, on appelle des virus, c'était en 1898, donc c'est quand même relativement récent, et c'est un scientifique qui s'appelait Martinus Beijerinck qui l'avait utilisé.
Et justement, les biologistes de la fin du 19e, voire début du 20e siècle, ils ont vite compris que les virus, c'était comme les problèmes, plus on en cherche, plus on en trouve.
Oui, c'est une règle qui marche toujours aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que les premiers travaux sur un virus, c'était sur un virus qui infecte les plants de tabac, dans les années 1880-1890, et très très vite... Plus on a cherché des virus, plus on en a trouvé, mais c'est-à-dire qu'en 30 ans, on en avait déjà identifié une soixantaine, alors qu'à l'époque, on avait très très peu de moyens pour les étudier. Aujourd'hui, sur une seule recherche de virus, on peut potentiellement trouver plusieurs milliers, voire dizaines, voire centaines de milliers d'espèces qu'on ne connaît pas forcément.
Et donc pendant longtemps, en fait, on en découvre hein, de nouveaux virus, 19e siècle, 20e siècle, mais on ne peut pas en faire grand-chose, parce que bon, certes, on les trouve, on les identifie, mais on ne peut pas vraiment les observer, parce que techniquement, ça ne suit pas, c'est ça ?
C'est ça. En fait, les virus ont beaucoup été définis à partir de leurs caractéristiques négatives. On n'était pas capable de les voir au microscope, on n'était pas capable de les cultiver en laboratoire, et on n'était pas capable de les arrêter en utilisant des filtres, alors que ces filtres arrêtaient très bien les bactéries. Donc on savait qu'ils existaient, parce qu'ils rendaient quand même des plantes, en l'occurrence au début, puis des animaux, des humains malades, mais on était incapable de les purifier et de les étudier en tant que tels. Ça s'est arrivé encore plusieurs dizaines d'années plus tard.
Et justement, en ce qui concerne les virus humains, ceux qui peuvent nous donner des maladies, longtemps on a avancé à l'aveugle pour trouver des solutions. Et on va prendre l'exemple de la variole avec la variolisation, un procédé qui est intéressant mais dangereux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors il faut se remettre un peu dans le contexte. Au début du XVIIIe siècle, la variole, c'était largement pire que le coronavirus aujourd'hui.
On a du mal à imaginer que ça peut être pire, mais expliquez-nous.
Oui, ça touchait beaucoup de gens, donc un peu comme le coronavirus. Mais ça en tuait les deux tiers.
Voilà. Oui, effectivement, donc, là, on a compris, c'est bon, vous nous avez
calmé.
C'est
clairement beaucoup plus grave, et même les gens qui survivaient, la variole, c'était connu pour laisser des cicatrices très visibles, y compris sur le visage. Donc voilà, c'était vraiment un des fléaux de l'époque. Et donc tout était bon pour essayer de réduire cet impact. Et en fait, c'est une femme, Marie Wortley Montagu, qui a ramené en Europe une technique qui était utilisée en Turquie, à l'époque, qui consistait, de façon pas du tout glamour, à utiliser du pu provenant de malades, pour l'inoculer à des personnes saines. Donc, comme ça, on est d'accord, ça ne fait pas du tout envie.
Hein. Non, c'est sûr.
mais le principe, c'est qu'il y avait quand même beaucoup moins de morts en faisant ça. Les gens mouraient moins de cette inoculation volontaire que de la maladie s'ils l'attrapaient ensuite.
Mais le salut est venu des vaches, hein, je crois.
C'est ça.
Expliquez-nous.
Voilà. Ça a l'air très improbable, hein, dit comme ça.
Oui, c'est pour ça que je l'ai balancé comme ça. Je me suis dit...
ça marque les esprits, en général. Voilà, la variolisation, ça consistait à injecter du pu de patients qui avaient la variole pour se prémunir de la variole, donc c'était quand même risqué. Et en fait, c'est quelques décennies plus tard, un médecin qui s'appelait Edward Jenner s'est rendu compte que les personnes qui travaillaient auprès des vaches n'attrapaient jamais la variole, parce qu'elles avaient une autre maladie, qui était une maladie de vache, donc qui faisait très peu de dégâts chez l'humain, voire à peu près aucun, et qui s'appelait la vaccine. Et en fait, il a eu l'idée d'utiliser ce virus de vache en l'inoculant volontairement aux humains pour les empêcher d'attraper la variole. Et c'est comme ça qu'on est passé de la variolisation à la vaccination. Le mot vaccin vient en fait du nom d'un virus de vache.
Bon, bah écoutez, c'est très intéressant, ah, c'est Tania Louis. On va poursuivre cet entretien passionnant dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invitée, c'est Tania Louis. Vous êtes en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en biologie, médiatrice scientifique et que vous êtes l'auteur du livre La folle histoire des virus, paru chez Humaine Science. Alors pour nous, les virus, surtout dans le contexte actuel, on ne les voit pas d'un très bon œil, mais dans votre livre, vous vouliez parler aussi, partager en tout cas avec nous une autre vision de la virologie. Est-ce qu'ils peuvent avoir finalement de positif, ces méchants virus que nous, on imagine ? Expliquez-nous.
La première chose, c'est déjà que les virus ne sont pas intrinsèquement méchants. Déjà parce qu'ils n'ont pas de volonté de nuire. Hein. Ce sont des entités biologiques microscopiques qui n'ont pas du tout de conscience ou d'équivalent. Et même si on va au-delà de ça, ce ne sont pas des entités qui évoluent dans l'objectif de produire le plus de symptômes possible. L'objectif des virus, comme pour la plupart des autres entités biologiques, c'est de se reproduire. Simplement, en se reproduisant, et pour se reproduire, ils ont besoin de parasiter d'autres organismes, et ce faisant, ils les empêchent parfois de fonctionner correctement, ce qui peut les rendre malades.
Donc ils ne sont pas, en tout cas, le coronavirus qui nous embête beaucoup depuis 7-8 mois, il ne se dit pas juste « mon objectif, c'est de profuser, d'être transmis partout sur la planète », c'est pas du tout ça, hein.
Alors, son objectif, c'est d'être transmis, mais dans l'absolu, s'il pouvait le faire discrètement sans nous rendre malades, je pense que ce serait mieux, y compris pour lui.
Et donc, il mute finalement pour survivre, mais quand on parle de mutation, on pense aux X-Men et forcément quelque chose de plus fort ou de plus méchant. Or, ce n'est pas l'objectif, c'est pas parce qu'un virus mute qu'il va devenir plus puissant ?
Non, pas forcément. Alors, en fait, toutes les entités biologiques mutent, donc les virus particulièrement rapidement parce que leur cycle de reproduction est court, mais vous aussi, les plantes aussi.
Jimmy, il mute, vous voulez dire, c'est-à-dire oui. Sous quelle forme il mute je... Parce que moi, je le trouve pareil depuis 2 ans. Hein, mais...
Une meilleure version de moi-même chaque jour.
Chaque jour,
arrive.
Chaque jour.
Le Jimmy d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui.
Non, plus sérieusement, ça pas être Jimmy qui mute, on l'a compris. Ça veut dire quoi, muter pour lui ou pour moi?
En fait, muter concrètement, c'est dans chacune, donc nous, de nos cellules et pour les virus, dans chacune des particules virales, il y a ce qu'on appelle de l'information génétique. Et une mutation, c'est un changement dans cette information génétique. Et ces changements apparaissent en général de façon aléatoire, mais ils sont loin d'être tous positifs. En fait, il y a 2 étapes dans l'évolution. Il y a la mutation et il y a la sélection.
D'accord.
Et la grande majorité des mutations ont des effets négatifs et ne sont pas du tout sélectionnées. Les seules qui restent, c'est celles qui ont un impact positif sur la capacité de prolifération.
Et en plus, Tania, vous écrivez dans votre livre, alors ça nous évitera peut-être d'en vouloir au SARS-CoV-2, mais les virus, ils décident rien de leur évolution. Eux aussi, finalement, ils subissent, c'est ça ?
C'est ça, c'est exactement comme nous, c'est-à-dire qu'ils subissent des mutations aléatoires et ensuite, sous le fait de la sélection, les virus qui portent des mutations qui leur permettent de mieux se multiplier deviennent de plus en plus nombreux. Mais il n'y a absolument aucune volonté là-dedans. Et par ailleurs, mieux se multiplier, ça ne veut pas du tout forcément dire mieux rendre malade.
Alors, je ne sais pas si ça donnera une meilleure image du virus ou du coronavirus, mais si on en revient au virus en général, il faut savoir qu'on est tous porteurs de virus et on cohabite aussi avec ces virus en l'ignorant, en fait.
Oui, parce que en fait, on est tous porteurs en moyenne de 2 ou 3 virus de type herpès, par exemple, qui nous ont infectés quand on était enfant, à l'âge où on ne trouvait rien de mieux à faire que de mettre tout ce qui nous passait dans notre bouche, notamment. Mais ce sont des virus qui, en général, provoquent peu de symptômes. On va se rappeler de leur existence quand on est un peu fatigué ou qu'on a une baisse de système immunitaire et qu'on a des boutons de fièvre, mais le reste du temps, ils ne nous gênent absolument pas, alors qu'on ne guérit pas d'un herpès. Celui qu'on a attrapé à 6 mois en bavant sur une télécommande, on l'a toujours. Et au quotidien, il ne nous pose aucun problème.
Et comment on explique alors que certains virus, par contre, vous disiez l'herpès, on peut l'avoir longtemps sans forcément avoir tout le temps des symptômes, mais comment on explique que certains nous rendent vraiment malades ?
En fait, c'est une question d'adaptation entre le virus et l'organisme qui l'infecte. Comme on disait tout à l'heure, un virus n'a aucun intérêt à provoquer des symptômes. Lui, ce qui l'intéresse, c'est simplement de se multiplier et de proliférer. Et plus il est discret, moins il va gêner l'organisme qui l'infecte, mieux c'est. Et en fait, plus un virus est adapté à l'organisme infecté, en général, moins il va faire de symptômes. Si on prend les équivalents du VIH qui infecte les singes, par exemple, à peu près chaque espèce de singe a son virus, qui ne le rend pas malade du tout. Mais s'il passe dans l'espèce de singe d'à côté, il va provoquer des symptômes.
Alors vous expliquez que c'est grâce à des virus que notre espèce humaine a fabriqué un placenta et que du coup, la possibilité de nous reproduire, c'est grâce aux virus ?
Oui, alors c'est une histoire que j'aime beaucoup, qui est encore sujette à pas mal de questions parce que c'est une découverte qui date du début des années 2000. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans notre génome, on a plein de morceaux de génome de virus. C'est dû à la façon dont ils se multiplient, c'est quelque chose de tout à fait normal, mais dans notre génome humain, on a 8% de génomes de virus, qui sont globalement assez abîmés, on pourrait plutôt parler de fossiles de génomes de virus, mais il y en a quelques-uns qui sont encore capables de s'exprimer. Et parmi ceux-là, il y en a un dont on a découvert qu'il s'exprime dans le placenta, et qu'il est essentiel à la formation du placenta. Et en fait, il y en a chez l'homme, mais il y en a chez plein d'autres mammifères, et on en a même retrouvé récemment chez un lézard vivipare, c'est-à-dire qu'ils se multiplient en portant les bébés à l'intérieur du corps du ventre de la mère, à l'intérieur du ventre de la mère et non pas dans des œufs, comme la plupart des autres lézards. Donc on pense aujourd'hui que ces gènes de virus qu'on a dans nos génomes et que d'autres animaux ont dans leur génome sont essentiels à la reproduction vivipare.
C'est vraiment très intéressant, Tania Louis. On va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
On va continuer dans quelques minutes donc ce voyage au cœur de la folle histoire des virus comme vous ne les avez jamais vus. Et juste après, on va parler de demain, de ce que l'on sait et de ce qu'il nous reste encore à comprendre sur la virologie. On parle aussi de virus géants, on parlera aussi de virus de virus. Vous allez voir, ce sera passionnant. Alors restez sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité en ligne avec nous cet après-midi, c'est vous Tania Louis, vous êtes professeure en biologie et auteure du livre La folle histoire des virus chez Humaine Science. Alors, on va parler un petit peu du futur de la virologie à présent, parce que finalement, vous nous l'avez déjà un petit peu expliqué, hein, il nous en reste beaucoup à découvrir. Dans votre bouquin, vous parlez des missions, notamment pour illustrer ça, des missions de la Fondation Tara Océan, qui nous donne déjà une petite idée de finalement ce qui nous attend.
Oui, en effet, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que jusqu'à maintenant, les virus qu'on a étudiés, c'était surtout les virus qui nous infectaient, nous, ou les plantes ou les animaux qui nous intéressaient directement. Donc, il reste plein d'endroits inexplorés. y compris les océans sur lesquels travaille la Fondation Tara. Et en l'occurrence, sur une mission, ils ont ramené différents échantillons océaniques dans lesquels ils ont repéré l'équivalent d'à peu près 200 000 espèces de virus.
200 000,
sachant qu'on en a répertorié à peu près 6500 pour l'instant. C'est-à-dire que ça ferait sur une seule mission exploratoire à peu près fois 30 sur le nombre de virus qu'on connaît.
Et du coup, quand on vous entend, on comprend que plus on veut en savoir sur un virus, plus on se rapproche d'un puzzle sans fin, c'est ça ?
Oui, bah c'est-à-dire que en fait, on a exploré, c'est comme si on regardait un tableau qui est sous un voile, et on a soulevé un coin, et on voit bien ce coin-là, mais on commence à apercevoir qu'en fait c'était juste un tout petit bout du tableau. Donc à la fois c'est très excitant en tant que virologue, hein, parce que ça veut dire qu'il reste énormément de choses à découvrir, et c'est aussi un petit appel à la modestie. Ouais. Sur l'étendue de nos connaissances actuelles.
Ce qu'ont vu vos vies et la crise actuelle nous permet déjà de se dire effectivement que vis-à-vis des virus et même bon, de celui-ci en particulier, effectivement, vaut mieux être modeste à ce stade. On n'en a pas terminé de faire des découvertes, vous dites, sur les virus et même certaines qui remettent carrément tout à zéro, puisque par exemple, longtemps, on a pensé qu'un virus, c'était forcément minuscule, mais au début des années 2000, on a découvert qu'il pouvait aussi y avoir des virus géants. Alors, on ne parle pas de monstres qu'on pourrait voir à l'œil nu, mais ça veut dire quoi, un virus géant ?
Alors, un virus géant, concrètement, c'est un virus qui est aussi gros, voire plus gros que certaines bactéries. Parce que quand on dit que les virus sont petits, en fait, ce qu'on sous-entend, c'est que les virus sont plus petits que les bactéries. Mmh. Et en 2003, on a identifié un virus qui est à peu près de la taille d'une bactérie. Et plus on en cherche, là aussi, plus on en trouve. Aujourd'hui, on connaît plusieurs familles de virus géants qui, pour certains, sont plus gros que la moyenne des bactéries. Donc ça veut dire qu'on ne peut toujours pas les voir à l'œil nu. Hein.
Vous avez l'exemple dans votre livre de Mimivirus. Alors pourtant, il a un nom tout mignon, Mimivirus, mais c'est un virus géant, hein, je crois.
C'est ça, bah, Mimivirus est le premier virus géant qui a été identifié. Et en fait, Mimi, ça ne veut pas dire qu'il est mignon. Ça vient de Mimicking Microbe, parce qu'en fait, pendant longtemps, on l'a pris pour une bactérie.
Ah oui, et si du coup, les virus sont plus gros que certaines bactéries, est-ce que ça les rend plus méchants ?
Alors, bon. Plus méchants, pas forcément, et en tout cas certainement pas pour nous, parce que tous les virus géants qu'on connaît sont des virus qui infectent des amibes, donc des organismes unicellulaires. Est-ce qu'il existe des virus géants qui infectent d'autres types d'organismes et qu'on ne les a simplement pas trouvés, ou est-ce que tous les virus géants qui existent infectent des amibes ? Ça, par contre, ça reste une question ouverte.
Alors, autre enjeu de la virologie de demain dont vous parlez dans votre bouquin, mais c'est de mieux comprendre les virus poupérus, des virus dans les virus. Là aussi, nous, on ne savait même pas que ça existait avec Jimmy. Enfin, peut-être vous, oui, vous connaissiez les virus de virus.
Non, absolument pas. Non, je ne vais pas mentir. Là, aujourd'hui,
poupérus.
Un peu d'humilité.
C'est quoi tout ça ? Expliquez-nous le plus simplement possible, évidemment.
En fait, le principe avec les virus, c'est que plus on en cherche, plus on en trouve, y compris au niveau d'organismes improbables. Donc, on connaissait déjà des virus qui infectaient des bactéries. Et on a découvert, après avoir découvert les virus géants, et en étudiant un nouveau type de virus géant, que eux-mêmes pouvaient être infectés par des virus. Donc c'est ce qu'on appelle de l'hyperparasitisme, un parasite qui parasite un autre parasite, ce qui est assez invraisemblable. Hein. C'est très récent, la découverte du premier virus de virus, qu'on a appelé un virophage, ça date de 2008. Mais ça sous-entend qu'il y a encore énormément de choses à explorer de ce côté-là aussi.
Du coup, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'un virus est vivant ?
C'est une grande question, et le fait qu'il y ait des virus de virus a plutôt tendance à plaider en faveur d'une réponse positive. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, peu importe ce qu'on répond à cette question, parce que c'est nous qui définissons les virus et c'est nous qui définissons le vivant, mais ça oblige à s'interroger sur est-ce que nos définitions sont pertinentes. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que les virus sont vivants, parce que, à mon avis, il ne faut pas définir les virus juste en regardant leurs unités de dissémination, les particules virales, c'est ce qu'on fait en général. Hein.
Oui.
Si je vous demande à quoi ressemble un coronavirus, vous allez me décrire la fameuse petite particule avec les picots en surface.
On l'a tous vu quelque part, dans les mois derniers. Ouais.
Mais en fait, ça c'est juste une étape de leur cycle de vie. Une fois qu'ils ont infecté une cellule, ils ont un comportement tout à fait différent.
Et
à ce moment-là, ils ont toutes les caractéristiques du vivant.
Et Tania, pour se remettre un tout petit peu dans le contexte et toujours parler de cette virologie de demain, quand on dit virus, ce qui nous inquiète évidemment, nous, les êtres humains, c'est de savoir qu'ils peuvent nous donner des maladies, créer des épidémies. On est au cœur de l'une d'entre elles en ce moment, mais est-ce que c'est vrai qu'il va y en avoir peut-être de plus en plus des épidémies ?
C'est difficile à dire parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment comparer les chiffres d'aujourd'hui avec les chiffres d'hier, puisque les méthodes de suivi et de détection sont très différentes. Mais ce qui est certain, c'est que la plupart des virus humains, si ce n'est tous, sont des virus d'animaux qui se sont adaptés à l'homme. Et plus on va perturber les écosystèmes et plus on va aller déranger les animaux sauvages et augmenter nos contacts avec eux, plus on augmente le risque qu'ils nous transmettent des virus.
Dernière question, Tania, vous l'avez dit, il faut être un peu humble vis-à-vis des virus, mais est-ce qu'on peut espérer qu'un jour ce coronavirus meure, disparaisse tout seul de la planète et qu'on soit enfin débarrassé sans vaccin?
Alors, le début de la réponse va être pessimiste, mais la fin, non.
Ah, c'est bien, on aime bien les fins heureuses, alors voilà. Ça tombe bien, allez-y, on vous laisse terminer heureusement.
Donc, qu'il disparaisse, ça paraît très improbable, déjà parce qu'il est bien implanté et parce qu'il n'infecte pas que l'espèce humaine. Donc partant de là, même si on arrive à l'éradiquer chez l'homme, il y a de bonnes chances pour qu'il repasse à l'homme depuis d'autres animaux. Le seul virus humain qu'on a éradiqué pour l'instant, c'est la variole dont on parlait tout à l'heure, parce qu'elle n'infecte aucune espèce animale. Ça empêche qu'il y ait des réservoirs, c'est le terme technique, animaux qui puissent nous recontaminer. En revanche, il y a de grandes chances pour que, en s'adaptant à l'espèce humaine, le coronavirus devienne de moins en moins dangereux et que finalement, il finisse par rejoindre toute cette panoplie de virus saisonniers qui nous embêtent l'hiver sans avoir de graves conséquences.
Bon, ben on a hâte qu'il aille rejoindre ses copains. Merci beaucoup, Tania Louis, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, et je suis sûre que vous êtes nombreux, je rappelle le titre de votre livre, La folle histoire des virus, chez Humaine Science. Et on peut également vous retrouver sur votre chaîne YouTube. Merci encore, Tania.
Avec plaisir.
Europe 1.
Sans rendez-vous, revient très vite avec notre chronique Les Bobos du quotidien. On va s'intéresser aux troubles du sommeil chez l'enfant. Pas les bébés, mais les enfants un peu plus grands. Pourquoi dorment-ils mal? Pourquoi se réveillent-ils? Une mauvaise qualité de sommeil peut-il avoir un impact sur la santé globale? Jimmy fera le point. A tout de suite.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Alors il est temps de passer à présent à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, une question pour démarrer cette séquence, une question d'une maman. C'est Iman, elle a 40 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Ma question aujourd'hui serait à propos de mon fils de 7 ans qui a de gros troubles du sommeil. Je commence un petit peu à m'inquiéter. J'aurais voulu savoir si mon inquiétude était fondée et si oui, quel spécialiste aller voir. Merci, au revoir.
Bon, Jimmy, une question sur le sommeil de l'enfant, sujet que vous affectionnez particulièrement, je crois. D'abord, c'est quelque chose de fréquent. Alors, ne précise pas quel trouble du sommeil son fils est atteint, mais on imagine un sommeil de mauvaise qualité. On pourrait penser que c'est un truc qui est réservé aux adultes, mais non, hein, y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de sommeil.
Exactement, et ceux qu'on connaît très bien, c'est ceux au début de la naissance, les nouveau-nés qui ont du mal à dormir, puisqu'ils ont du mal à se synchroniser sur la lumière. Mais il y a tout un tas de troubles du sommeil de l'enfant. Certains sont plus ou moins graves, certains sont bénins. Alors, ceux qu'on ne connaît pas très bien du grand public, c'est le syndrome d'apnée du sommeil, c'est-à-dire qu'on se fait des pauses respiratoires la nuit, comme les adultes. Mais vous en avez plein d'autres. Les cauchemars, c'est un trouble du sommeil. Les terreurs nocturnes en font partie aussi. Le somnambulisme, le bruxisme, le fait de grincer des dents. Et puis, vous en avez d'autres qui sont un peu plus rigolos, comme les rythmies du sommeil. C'est des enfants qui ont des mouvements stéréotypés. Ils vont se balancer avant de s'endormir.
Et en fait, ils s'auto-bercent, quoi.
Exactement.
En fait, c'est ça,
c'est un mouvement d'auto-apaisement. C'est plutôt fréquent, c'est pas très grave, puisque ça ne débouche sur rien tant que ça reste bénin et que ça ne cogne pas la tête contre le mur, parce que ça peut révéler un vrai trouble du développement. Et puis, vous avez aussi les somniloquies, le fait qu'un enfant parle dans la nuit. C'est 85% des enfants entre 2 et 6 ans.
Ça peut concerner les adultes aussi, non, je crois,
ça
parce que
un peu
moi,
les adultes,
je parie que je parle en dormant.
C'est 25% des adultes, donc voilà, vous faites partie de cette
catégorie. Je suis somniloque, alors.
Donc, c'est fréquent.
Comment elle peut faire, Iman, pour aider son fils, notamment à s'endormir, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'endormissement?
Alors, c'est vrai qu'il faut comprendre qu'on a un cycle de veille et de sommeil qui est rythmé sur 24 heures et qu'on a une horloge biologique qui nous dit quand est-ce qu'on doit se réveiller et quand est-ce qu'on doit dormir. Cette horloge, elle est synchronisée par la lumière et elle nous dit le soir, on va sécréter de la mélatonine pour nous endormir. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire certaines choses. La première, c'est d'essayer de limiter l'exposition aux écrans le soir. Ça va perturber cette hormone biologique.
Combien de temps avant le coucher?
Au minimum une heure chez les adultes. Je pense qu'on peut pousser un petit peu chez les plus petits, une heure et demie, deux heures. D'une façon générale, il faut limiter les écrans. Les enfants ont besoin d'un rituel. Même à 7 ans, 6 ans, un enfant, il a besoin de savoir une séquence. On va se brosser les dents, on va se mettre en pyjama et puis on va aller dormir. Et ce rituel doit être court. On évite des rituels qui durent une demi-heure, une heure. Parce que
c'est deux histoires, quatre histoires, huit histoires. Non, ça, c'est pas bon.
Chez un enfant anxieux, on va renforcer l'angoisse de séparation. Et puis, on dort dans une chambre et la chambre doit rester pour la chambre. Ce n'est pas un lieu de travail, ce n'est pas un lieu de divertissement. On sanctuarise l'environnement. Et puis, si ça ne marche pas, mais il faut se faire aider.
D'accord. Et justement, d'un point de vue médical, on va dire physiologique, est-ce que le fait d'avoir des troubles du sommeil chez un enfant, ça peut avoir des répercussions sur sa santé globale?
Complètement, puisqu'on sécrète la nuit une hormone, l'hormone de croissance, qui survient en première partie de nuit. C'est pour ça qu'on dit que les enfants doivent se coucher tôt. Si vous couchez un enfant à 2h du matin et qu'il se lève à midi, ce n'est pas le même sommeil que s'il se couche à 21h en se levant à 7h du matin, puisque sur la première partie de nuit, vous allez sécréter de l'hormone de croissance. Donc un enfant qui ne dort pas, c'est un enfant qui ne va pas grandir. Et donc une des causes fréquentes de consultation avant les troubles du sommeil et avant la fatigue, c'est de dire, bah tiens, mon enfant, il ne grossit pas, il ne grandit pas. Et qui dit trouble du sommeil, dit aussi trouble des apprentissages. On a réussi à prouver le contraire. Un enfant de 4-5 ans qui fait la sieste l'après-midi, il arrive à mieux acquérir les acquisitions du matin. Et donc, ça a une vraie conséquence sur l'ensemble de son développement.
Et alors, juste rapidement pour terminer, Jimmy, un enfant qui a des troubles du sommeil, qui sait qu'il faut consulter, quel examen on va lui faire ?
Médecin du sommeil, il en existe, pédiatrique, et on fait, quand on a un vrai doute, une polysomnographie du sommeil. C'est un enregistrement à l'hôpital du sommeil, de l'activité cérébrale, de la respiration, des mouvements que vous faites, et ça permet de savoir à quel moment l'enfant va se réveiller et s'il fait des phases, parce que vous avez du sommeil lent, du sommeil profond, et pour savoir est-ce qu'il a un vrai sommeil de qualité. Bref, faites-vous aider, médecin du sommeil.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour cet éclairage très intéressant.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h bien sûr, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et c'est Catherine Blanc qui entre en scène tout de suite. Catherine Blanc qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui on a une question d'Odile, on l'écoute.
Bonjour Catherine, je vous téléphone, en fait j'ai une question à vous poser qui m'importe en ce moment. Ma mère a 78 ans et elle est en maison de retraite. Et en fait, elle est veuve depuis un certain temps déjà. Et quand elle me parle, elle m'explique qu'elle a trouvé un amoureux. Je vous passe les détails, mais elle me dit qu'ils ont quand même des rapports sexuels. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que c'est possible ? Est-ce qu'elle perd la tête ? Est-ce qu'elle se prend pour une ado ? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît ? Merci, Catherine.
C'est mignon de s'inquiéter comme ça de la vie personnelle et intime de sa maman. Alors Catherine, la sexualité, elle n'a pas vraiment de limite en fait. Pourquoi ? Alors peut-être qu'elle perd la tête, je ne sais pas, mais c'est possible d'avoir des rapports sexuels à 78 ans, déjà d'un point de vue physique pur, hein, on va dire.
Alors d'abord, d'avoir une pulsion sexuelle, c'est tout à fait merveilleux d'ailleurs, puisque c'est une pulsion de vie. C'est donc une femme qui n'a pas éteint ce lieu qui est sa génitalité. D'ailleurs, c'est toujours extrêmement touchant de voir et d'entendre les personnes âgées, encore que cette femme n'a que 78 ans.
Hein, jeune.
N'essayons pas de dire, parce qu'elle est dans une maison de retraite, que ce serait une super vieille. Au nom de quoi elle ne pourrait pas être animée de désir émotionnel, donc amoureux, et que cela donne lieu à une excitation et un désir de répondre à cette excitation par de la sexualité. On ne perd pas la tête parce que, ou alors on ne la perd pas plus que des jeunes qui sont eux-mêmes animés de désir.
Oui, c'est ça, parce que quand on parle des jeunes libidineux, on a tendance à comprendre, à se dire c'est normal, il est dans la force de l'âge. Mais quand on parle des personnes un peu plus âgées, certains trouvent rapidement ça écœurant. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, lorsqu'on vieillit, le rapport sexuel devient presque honteux alors qu'il est considéré comme normal quand on est plus jeune ?
Parce que nous avons tendance à réduire la sexualité à une fonction de procréation. Et à partir du moment où les gens ne sont plus fertiles, on considère qu'ils n'ont plus lieu d'être sur ce territoire-là. Ce qui arrange bien évidemment la jeunesse, qui a peur de partager un territoire parce que ça serait incestuel que de sentir plusieurs générations de concert en action sexuelle. Du coup, ça devient les vieux qui sont des gros pervers, qui sont libidineux, parce qu'on les imagine avoir des regards sur la jeunesse. Mais c'est la jeunesse qui imagine que le seul fait que la vieillesse soit en action sexuelle les sollicite personnellement.
Mais à 78 ans, alors je ne sais pas quel âge a le bourreau des cœurs aussi, puisqu'apparemment elle a trouvé un amoureux, cette maman.
Au sein de la maison de retraite.
Au sein de la maison de retraite. Oui, est-ce que quand même techniquement, il n'y a pas des problèmes ? Parce qu'on imagine que forcément, chez l'homme, on s'imagine 78 ans, 80 ans, 90 ans, qui dit peut-être panne d'érection parfois. Et puis chez la femme, il y a peut-être des problèmes aussi quand même techniques, je ne sais pas, de lubrification. Non, ça va, ça peut continuer à rouler alors, tranquille jusqu'à la fin.
De toute façon, les problèmes techniques n'annulent pas
le désir.
Et du coup, l'art de les contourner. Bien sûr qu'il peut y avoir des pertes d'érection, ceci étant, pertes d'érection, il y a des hommes qui ont des périodes de réfractaire après une érection longue. Ça peut être plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines pour certains. mais ça n'empêche pas que quand il y a une érection, il y a une érection. Et puis, c'est pas parce qu'un pénis n'est pas en érection qu'il n'est pas sensible et qu'on peut pas s'en amuser pour la dame et puis lui-même y prendre du plaisir. Et de même, effectivement, elle peut avoir des problèmes de lubrification, mais ça existe déjà sur la génération des enfants qui seraient ménopausés, préménopausés. Et on sait très bien que la génération des quinquas savent très bien s'en débrouiller aussi. Donc, même physiquement, au niveau des articulations, de la souplesse, c'est presque un jeu. Et ce sont deux personnes du même âge qui s'adaptent et deux personnes qui vont se rencontrer dans la réalité de leur corps et du respect de ces corps-là.
Est-ce qu'on a autant de désir lorsqu'on a 80 ans? Parce qu'on résume souvent les besoins des personnes âgées un peu à ceux des enfants, des besoins fondamentaux, basiques, presque archaïques. Je mange, je vais aux toilettes, je dors, mais on a le sentiment qu'après leur âge, c'est terminé, alors que pas du tout.
Pas du tout. D'ailleurs, souvent, quand on voit dans les maisons de retraite, notamment des personnes qui n'ont plus toute leur tête, donc n'ont plus le raisonnement et la notion de pudeur, eh bien, ils parlent beaucoup de sexualité, ils rêvent beaucoup de
les
sexualité.
Les filtres sautent, peut-être.
Les filtres sautent. Et c'est là qu'on découvre combien elle est présente. Elle est présente de bout en bout dans la vie, soit plus ou moins corporelle, donc plus ou moins accompagnée de l'élan corporel, parfois plus fantasmatique, mais c'est cela qui est très touchant, c'est que dès lors que vous parlez à des femmes de leur sexualité, de leur jeunesse, c'est étonnant de voir combien elles réveillent leurs souvenirs et que c'est encore très palpable dans leur corps.
Très bien, merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour,
bonjour Mélanie.
Appelez le maître.
1m75. Appelez-moi maître, pardon. C'est le thème d'Historiquement Vôtre aujourd'hui avec trois grands avocats. Alors, Pierre-Antoine Berryer, évidemment, qui a laissé son nom à une célèbre conférence des avocats, un grand orateur. Maître Gisèle Halimi, qui a défendu les femmes, les droits des femmes, et qui nous a quittés cet été. Et vous, Mathieu, alors, j'ai pas bien compris,
non,
là,
mais
vous êtes sorti du rang.
Ouais, je suis passé à côté. Ça arrive parfois, hein, mais là, j'ai juste vu qu'on parlait des maîtres. Moi, je vous parle de Maître Yoda. Enfin, c'était un grand avocat, sa manière, le défenseur de la cause des Jedi.
Merci beaucoup à tous les deux, je vous souhaite une très bonne émission comme tous les jours et vous qui nous écoutez, si vous voulez continuer de vous détendre, de vous faire du bien surtout, restez sur Europe 1.